Vous êtes sur RTL.
Bonjour à tous, je m'appelle Noah. Ce message est destiné à ma grand-mère Tina qui écoute tous les jours RTL. J'espère que tu viendras à Noël et pour le nouvel an, parce que si c'est maman qui cuisine, c'est la cata. Bisous mamie, je t'aime fort. Et bonne fête de fin d'année à tout le monde.
On défait le monde dans RTL Soir. Cyprien Sini.
19h18, toute l'équipe est déjà en studio, bien installée pour défaire le monde. Comme tous les vendredis soirs, vous le savez, c'est la saison 2. On est sur quoi? Sur l'épisode 17.
17, hein. 17, Stéphane.
Donc il y a un sommaire, évidemment. On y va, Cyprien.
Noëlophile ou noëlophobe? Noël ne laisse personne indifférent. Dans On défait le monde, vous comprendrez pourquoi cette période exacerbe autant nos sentiments. Les premiers seront les derniers avec la deuxième vague de coronavirus. Les bons élèves d'hier, Allemagne, Suisse, ne sont plus des modèles, alors que la France ou l'Espagne s'en tirent moins mal. Éclairage à venir avec le professeur Antoine Flahaut. Le loser, le grand perdant de la semaine. Et alors que Céline Landreau est en congé, dans l'attente d'un heureux événement, on l'embrasse. Et bien c'est Marie Mollet qui va désigner celui ou celle qui a raté sa semaine. Et ce soir, Marie, un rendez-vous manqué.
Oui, des tests, des gymnases, des infirmiers, mais pas de patients.
Le billet retour de Brise du Génie, vous nous ramenez 10 ans en arrière, quand une révolution devait emporter l'histoire.
Oui, retour dans les braises encore fumantes des printemps arabes.
D'ici 20h, vos 3 infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, cap sur les 50e rugissants à bord du bateau de Maxime Sorel, qui poursuit le rêve complètement fou de son premier Vendée Globe. Sans oublier le jeu, ce soir à gagner. Allez, une semaine pour deux, à la montagne, dans la station de la Plagne, comme ça, hop, ça fait plaisir. La question pour jouer, vers 19h40, On défait le monde, saison 2, épisode 17.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
Je me fais mal au moral parce que vous êtes un aigle et je suis un canard. Vous offrez des semaines à la montagne et moi, demain matin, j'offre 2 montres RTL.
c'est comme ça, c'est le talent, ça. Mais nous, on a un monsieur cadeau. Je sais pas si vous avez ça le matin.
Moi, j'ai monsieur tout seul. Vous réagissez à l'émission, vous commentez le compte Twitter à disposition et vous allez à la page Facebook. Cyprien, le surf de la semaine, c'est parti.
Et là, les amis, il est vraiment temps que l'année se termine parce que ça commence à partir dans tous les sens. Cette semaine, sur BFM, on a retrouvé... Vous la reconnaissez, hein, ça vous rappelle vos jeunes années. Chantal Goya, dites donc. Bon, alors déjà, en soi, c'est une info. Mais alors, le plus étonnant, c'est qu'à 78 ans, Chantal...
78 ans.
Elle a complètement craqué. Elle rappe maintenant. Attention, ça pulse.
Allez, je vous la faire. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivée une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de Morte Fontaine, vont à Morte Saison. Tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui ? C'était un lapin qui ? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Pow !
Oh. West Coast Style, Chantal.
Bébé.
Baby. Complètement toupie, qui donnera même un concert en visio ce week-end. Mais alors avec des chansons version classique, je précise, Pandi Panda, tout ça normal, quoi. Sinon, toujours dans la série Semaine compliquée, un mot de Marlène Schiappa, qui était sur Radio J pour parler de la loi contre la polygamie. Et alors, visiblement, ça va particulièrement vous intéresser, Brice. Elle a voulu mettre 2-3 choses au clair. Je vous préviens, c'est étonnant.
Il y a toujours des gens pour me dire « Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à trois, vous allez interdire... »
Vous dites les plans à trois ?
Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes.
Voilà, hein, vous vous êtes rassurés. Mais alors, le présentateur de Radio J, ça a l'air de beaucoup l'intéresser, cette histoire, quand même.
Avec tout ce que vous voulez.
Comment vous faites alors pour les mesures de distanciation dans les plans à trois ?
Ça regarde chacun. On va pas rentrer dans les détails techniques.
Ah, dommage. Décidément, ministre de la République, ça a changé comme boulot. Hein. C'est plus ce que c'était. Sinon, on a la fameuse blague de la semaine et la lauréate du jour s'appelle Nadine Morano sur CNews. Attention, l'espoir fait vivre, Nadine.
Candidat à une élection présidentielle, il faut justement écraser le match. Il faut être la personnalité. Je dis que je jouerai un rôle dans cette élection présidentielle, ça c'est clair.
Voilà. C'est dur. Après, n'insultons pas l'avenir. Bon courage à Nadine Morano pour la présidentielle. Il y en a un autre d'ailleurs, qui se verrait bien jouer un rôle dans la prochaine présidentielle, c'est monsieur...
Je vais bouleverser le jeu politique.
Mais oui, vous l'avez reconnu, mesdames, messieurs. Nicolas Dupont-Aignan, NDA, comme on l'appelle dans sa galaxie lointaine, très très lointaine, dans laquelle il nous disait en 2017...
Je vais faire une surprise pendant cette élection.
Oui, il a surtout fait 4%. Bref, NDA donc en pointe en ce moment hein, sur la lutte contre le vaccin ARN. Il s'inquiète, il n'a pas confiance. Et hier sur Inter, il a sorti un argument massu en s'appuyant sur une des références incontestables en la matière.
Qu'on a été trop vite, attention à la précipitation, sûrement pas avec ce vaccin pour l'instant. Il y a un vaccin qui n'a jamais, dans son procédé, été testé sur une personne humaine. De grands généticiens, Axel Kahn et d'autres, ont dit qu'ils ne se vaccineraient pas avec ce vaccin. Pas...
Alors, il appuie son argument sur Axel Kahn, référence de la génétique, ça calme. Hein. Mais alors, juste là, il disait quoi sur les dangers du vaccin ARN Axel Kahn la semaine dernière? Non, parce que quand même, on ne sait jamais, on était vérifié. Hein.
Oh, il n'en est rien, c'est totalement impossible. Ce que l'on injecte ne peut, je le dis, en aucun cas, modifier notre ADN, notre hérédité. Et ceux qui ont prétendu cela, soit sont des gens qui ont voulu tromper les auditeurs, soit sont des gens qui sont profondément ignorants.
Voilà. Ou alors ça peut être les deux en même temps. Tiens, d'ailleurs, le généticien en a remis une couche ce matin sur LCI.
Je dis une seule solution, la vaccination. Le vaccin ARN, c'est une technologie révolutionnaire qui permet d'aller beaucoup plus vite.
Oui, décidément, dans sa galaxie très très lointaine, à Nicolas Dupont-Aignan, on doit aussi parler une autre langue. Allez, vivement l'année prochaine.
Vivement l'année prochaine. Le surfeur de la semaine et de On défait le monde, c'est Cyprien Signy. Il est 19h23.
On défait le monde sur RTL.
On en vient, les amis, à la grosse info et on colle à l'actualité. Ah, ça concerne Noël.
Ah oui, cette saison. Hein. Car le monde se divise en deux catégories. Il y a les noëlophiles et les noëlophobes. Il y a ceux qui adorent cette période et ceux qui la détestent. En tout cas, eh ben, elle laisse pas indifférent. Et donc, Laurent, ce soir, on a voulu comprendre pourquoi cette période si particulière exacerbait autant les sentiments.
Maria Carré,
là, le mec
c'est la fin de l'année, on s'amuse. Alors Noël est au départ une fête catholique, elle est devenue la fête des enfants, du Père Noël, et les 24 et 25 décembre ont tellement une place particulière qu'il n'y aura pas de couvre-feu le soir du réveillon, contrairement au Nouvel An. Le gouvernement a voulu, quoi qu'il en coûte, maintenir cet événement.
Nous sommes tous en train de prendre les décisions requises pour protéger Noël.
Noël se fera dans tous les cas de figure.
Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions.
Volonté des politiques, mais aussi succès des téléfilms de Noël. Hein, des fictions qui sentent bon le sapin, le feu de cheminée, les histoires d'amour, les belles valeurs. Et ces films ont fait leur retour, notamment sur M6 le 2 novembre. Et les audiences sont un succès. Noël en escarpin, Noël tous les jours, joyeuse pagaille à Noël, mariolet pour Noël. Mais le succès de cette fête a aussi une autre origine pour le sociologue Jean Viard.
Depuis 1981, la cinquième semaine de congé payé, on l'a mis entre Noël et Jour de l'An. Et donc la plupart des gens ne travaillent plus entre Noël et Jour de l'An, sauf ceux qui sont des métiers spécialisés. Et en même temps, parlant avec les adolescents, on deal, bon tu viens à Noël, il y a papy, mamie, mais le réveillon pète la maison. C'est-à-dire qu'en gros, la soirée, j'allais dire, de liberté, c'est celle du 31, qui se deal avec celle de Noël, qui est la fête de la famille.
Et Jean Viard me le confie, la moitié des Français ne vivent pas dans le territoire de leur naissance. Noël, c'est donc le moment où l'on se déplace, où l'on retrouve ses proches, mais l'événement a évolué au fil des années, catholique au départ et ensuite.
On est presque noyé sous les cadres. Disons que la société de consommation est passée sur la naissance de Jésus.
Et cette année, les Français vont dépasser en moyenne 603 euros pendant les fêtes.
Mais alors Laurent, comment expliquer la noélophilie, toute cette effervescence autour de Noël?
C'est bientôt l'hiver, on a tous des chansons dans la tête.
Petit papa Noël.
On prépare le sapin début décembre, on installe des éclairages dans le jardin, on gâte ses proches, c'est le moment où l'on se retrouve en famille. Il y a un côté aussi carnaval pour Jean Viard. C'est un rituel important pour notre bien-être, comme l'explique le psychiatre Michel Lejoyeux, auteur du livre Les 4 temps de la Renaissance, aux éditions Jean-Claude Lattès.
On a besoin de repères dans l'année, particulièrement dans les situations de crise. Et on a besoin de ces répétitions qui sont à la fois des moments qu'on vit dans l'instant présent et qui sont aussi des moments de pure nostalgie.
Après, Michel Lejoyeux tient à le rappeler, nous ne sommes pas dans une dictature de Noël.
Oui, car tout le monde n'est pas aussi enthousiaste à l'approche du 24 décembre.
C'est vous ?
Il y a
noélophobie. Alors, la noélophobie, mot très barbare, soyez rassurés, n'est pas une maladie, mais plusieurs raisons expliquent ce rejet.
Pour certains, ça renvoie à finalement des expériences anciennes et des expériences dans l'enfance qui étaient plutôt traumatisantes. Et c'est une manière de revivre des souvenirs traumatisants.
Et pour d'autres, la signification religieuse ou sociétale ne leur convient pas. Certaines personnes le vivent vraiment comme une contrainte, selon le sociologue Jean Viard.
c'est une fête obligatoire. Donc d'abord, il y a tous ceux qui n'ont pas de famille, il y a tous ceux qui ont perdu un enfant, par exemple, pour qui la fête des enfants, c'est une mauvaise journée. Bon, il y a un âge, vous voyez, quand on a 16, 17, 18 ans, comme c'est pas un choix, c'est pas comme on dit, tiens, je vais voir mamie, c'est tu dois venir voir mamie.
Et puis, on peut aimer Noël, mais se sentir aussi très vite débordé par la fameuse course au cadeau. Le psychiatre Michel Lejeune nous le rappelle.
Ça peut être chez certains une sorte de performance, vous savez, c'est l'anxiété de performance où il faut être le meilleur. Je veux tel cadeau, tel accessoire sur la table, tel repas. Gardons quand même cette idée qu'il faut pas une préparation psychologique à Noël.
Et pour celles et ceux qui fêteront Noël, hein, histoire de pas gâcher l'ambiance au moment du dîner, c'est quoi les sujets à éviter le 24 et 25 décembre?
Ah oui, là, attention, hein, si vous voulez tenir jusqu'à la bûche, passer avant un bon moment lors de l'ouverture, vous avez des huîtres, hein, de la préparation du chapeau. Deux sujets sont à éviter pour janvier.
Il ne faut jamais parler d'Emmanuel Macron et de sexualité. Je pense que c'est deux sujets que je déconseillerais. Si vous commencez à parler de politique, c'est vachement dangereux. Et si vous parlez d'érotisme, c'est aussi explosif.
Voilà, le conseil donné est que tous les enfants se rassurent. Le Père Noël est immunisé contre la Covid-19. Déclaration officielle de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Je suis pas sûr que chez moi, il passe. Hein. Hein bon, je ne sais pas, je préviens mes enfants qui se préparent.
Vous êtes comme ça, vous. Il y a un beau cadeau pour tous les fans de handball et handball féminin en particulier. Jean-Michel Rascol à l'Euro. Parce que nos Bleus sont en finale. Hein.
Effectivement, 30-10 face à la Croatie. De mémoire, il y a très longtemps qu'une demi-finale ne permette pas une équipe de tracer un trou de 11 points comme ça, 11 buts d'écart en demi-finale. Donc les Françaises en finale pour conserver peut-être leur titre. Toujours est-il qu'elles seront face à la Norvège ou le Danemark. La Norvège, c'est l'équipe la plus titrée d'Europe. 7 titres, non pas consécutifs, mais c'est le gros morceau qu'il faut encore avaler. En même temps que la bûche.
Voilà, la finale, ce sera dimanche.
Mais c'est toujours Olivier Crumbles, le.
Toujours.
Bah ouais, c'est fou.
Thermostat 6, 200 degrés, il est parfait.
Je suis né avec Olivier Crumbles.
La première info pour briller au dîner, c'était intéressant, ça, Cyprien.
Ouais, c'est juste après ça. Indispensable.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
19h32, très bon début de soirée. Première info de ce soir avec Marie. Et ça concerne le couscous.
Oui, vous savez que le couscous est entré cette semaine au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ce n'est pas un pays qui a remporté le titre, mais quatre pays du Maghreb qui ont déposé une candidature commune après des années de conflits à se disputer entre la paternité du couscous. Et en fait, la guerre culinaire, c'est un grand classique. On a vu plusieurs exemples dans l'histoire récente. La guerre du houmous qui a déchiré le Liban et Israël pendant plusieurs années. Hein, lequel des deux pays a inventé la purée de pois chiches après 60 ans de guerre armée, la bataille a investi le champ culinaire. Et puis beaucoup plus récemment, la guerre des soupes entre l'Ukraine et la Russie, qui revendiquent toutes les deux avoir inventé le borsch, ce potage rose à la betterave. Conflit qui fait écho à la guerre de Crimée et son annexion par la Russie. Pour Kiev, le borsch est devenu un symbole national à protéger. L'UNESCO n'a pas encore tranché.
C'est symbole de régime, le borsch, parce que moi, j'en mange pas.
Fait mal. Potage à la betterave. Merci pour l'info, signé Marie Mollet.
Allume la lumière.
Allume la lumière, c'est l'éclairage dont défait le monde quand un expert vient nous expliquer l'actualité. Ce soir, Cyprien, on parle coronavirus.
Oui, puisque dans la gestion de cette deuxième vague, on a un peu l'impression que Jean Castex et l'exécutif s'appliquent la fameuse formule attribuée à ce bon vieux Talleyrand. Là. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console.
Oui, la France fait pour l'instant moins mal que ses voisins après un printemps difficile. Cette deuxième vague rebat donc les cartes. Les bons élèves d'hier, l'Allemagne, la Suisse, sont peut-être les mauvais d'aujourd'hui.
Alors, pourquoi entre les deux vagues, tout est chamboulé? Pour essayer d'y voir plus clair sur le sujet, on accueille le professeur Antoine Flahaut. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes épidémiologiste et directeur de l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève. Vous avez une vision internationale de cette épidémie. Comment vous expliquez que ceux qui s'en sont mieux sortis en mars s'en sortent moins bien aujourd'hui et inversement?
Ça dit que l'histoire n'est pas terminée et que donc il faut rester tous très concentrés, que c'est fatigant pour tout le monde et que finalement les pays qui ont pris peut-être un peu plus tôt des décisions assez fortes, qui étaient des décisions de confinement. L'Irlande, le 21 octobre, a décidé de confiner, nous, une semaine plus tard en France. Eh bien, cela engrange aujourd'hui les fruits d'une politique assez courageuse, assez audacieuse, parce que la population n'était pas toujours complètement convaincue de la nécessité de mettre en œuvre ces mesures. Et dans des pays du Nord, on voit, d'ailleurs, on voit un peu ce... on appelle ça, nous, le Corona-Graben, en allemand, ça veut dire un peu le fossé que l'on a entre les Suisses allemands et les Suisses romands. On voit très bien que les Suisses alémaniques ou bien les Allemands ont mis plus de temps à réaliser l'ampleur de cette seconde vague et le fait qu'il n'arriverait pas à la contrôler comme il l'espérait sans avoir à recourir à ces mesures fortes et contraignantes.
Et est-ce que ce n'est pas aussi dû à peut-être un excès de confiance ? C'est-à-dire que vu que la première vague s'était bien passée, qu'elle a été bien gérée, ils se sont dit c'est bon, on va gérer la deuxième pareil, et en fait, voilà, trop de confiance et patatras.
Vous avez en Irlande, la décision de confinement, comme je le rappelais tout à l'heure, a eu lieu le 21 octobre. Et le 25 octobre, la courbe exponentielle de l'épidémie a été cassée et s'est mise à redescendre. Comment voulez-vous qu'en 4 jours, la décision d'un confinement, par quelque gouvernement que ce soit, puisse porter ses fruits si rapidement ? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on voit très bien, et on le voit par les données de Google Mobility, que dès le 4 octobre, soit 15 jours avant la décision politique de confinement, le peuple lui-même s'est auto-confiné. Donc il y a une sorte d'auto-confinement qui s'opère et qui vient être régularisé en quelque sorte par une décision politique de confinement. Je pense qu'en France, on a eu aussi le même type d'attitude. Il est tout à fait possible en effet qu'en Allemagne, on n'ait pas cette perception du risque aussi aiguë qu'en France ou qu'en Suisse romande.
Est-ce que la crainte de prendre des mesures impopulaires dans certains pays pour certains gouvernement peut aussi expliquer cette différence d'évolution ?
Oui, je pense que vous avez raison. Dans les démocraties, les pouvoirs publics suivent, accompagnent, régularisent l'opinion publique. C'est-à-dire que, bien entendu, les experts sont là pour donner des conseils, des recommandations, mais les scientifiques sont là aussi pour montrer où en sont les indicateurs. Et puis, les hôpitaux rapportent les données sur les tensions qu'ils subissent dans le système hospitalier. Et c'est tout cela qui fait qu'il y a une prise de conscience de la population, qui est également une prise de conscience des politiques, mais les politiques ne peuvent pas agir tant que la population n'a pas réalisé que la situation était grave et l'exigeait.
Est-ce que les pays qui ont été très touchés pendant la première vague ont pu développer en partie une forme d'immunité qui les protège pour cette seconde ?
On vient de tester cela à Genève. À Genève, 22% de la population du canton, qui fait 500 000 habitants, est aujourd'hui positive par des anticorps contre ce coronavirus. 22%, c'est bien, ce n'est pas zéro. Ça représente certainement un frein, mais ça n'est en rien un barrage contre l'épidémie. Il faut l'addition de mesures, surtout quand on a une forte pression du virus.
Eh bien, on a notre destin en main, en tout cas, on l'a bien compris. Merci beaucoup, professeur Flao, d'avoir allumé la lumière sur le sujet. À bientôt.
Je vous en prie, hein, merci, au revoir.
Au revoir.
Éclairage très intéressant hein, dans Défait le Monde une nouvelle fois en ce vendredi soir. Restez bien là, la suite de l'émission, c'est juste après ceci avec la deuxième info pour briller au dîner. À tout de suite.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
À 19h40, c'est la deuxième ce soir. Tout à l'heure, c'était les batailles culinaires avec Marie. Et Brice, c'est à vous avec le droit de vote.
Oui, cette semaine, des députés français ont fait une proposition pour que le vote devienne accessible dès 16 ans en France. Eh bien, savez-vous que c'est déjà le cas en Europe, dans 3 pays de l'Union Européenne, oui. Vous voulez jouer ?
Ouais.
Non,
ah oui. Bah, je sais pas.
En Autriche, depuis 2007, à Malte et en Slovénie. Mais alors en Slovénie, il faut avoir un emploi. Il faut avoir 16 ans, mais être employé. Ouais. Et puis c'est le cas aussi, mais là, que pour les élections locales, en Écosse et en Allemagne. En Grèce, c'est 17 ans. Et dans le reste du monde, Brésil, Argentine, Nicaragua, Équateur, Cuba, également 16 ans pour voter. Oh,
pas mal cette petite info pour briller au dîner. Signé Brice Dugénie à 19h41.
RTL. De la semaine.
Ah, Céline est partie prendre un congé bien mérité en attendant un heureux événement et c'est donc l'excellente Marie Mollet, presque aussi intransigeante que sa collègue, je précise. Hein. On n'a pas choisi par hasard, qui a désormais la tâche, le plaisir de désigner, d'épingler son loser, son grand perdant de la semaine. Et Marie, ce soir, ce sont ces campagnes de mass testing, de tests de masse qui ont reçu vos faveurs.
Oui, souvenez-vous, en début de semaine, on nous annonçait avec tous les flonflons le lancement d'une opération coup de poing, un dépistage massif et clair dans deux villes pilote choisi entre 1000, Le Havre et Charleville-Mézières dans les Ardennes.
Oui, opération géante lancée dans les pharmacies, les laboratoires, les cabinets médicaux, dans certaines grandes entreprises et puis dans 20 centres conçus parfois pour accueillir jusqu'à 1000 patients par jour.
partout, des gymnases réquisitionnés, des équipes mobiles, une machine de guerre pour aller débusquer les malades avant Noël. Et pour communiquer sur cette prouesse logistique, un casting 5 étoiles. Olivier Véran fait le déplacement au Havre lundi. La veille, le maire de la ville, Édouard Philippe, la coqueluche des Français, a fait la une du JDD. Interview exclusive où il a eu ces mots.
Si on fait tester 50% de la population du Havre, eh bien je serai le plus heureux des hommes.
Alors avec tout ce ramdam, on s'imagine des hordes de Havrais se ruant aux premières lueurs du jour dans les gymnases pour tendre leurs narines ouvertes aux infirmiers débordés par la foule. Sauf que ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça.
Eh bien, on ne peut pas réellement parler de vague hein, en ce qui concerne la fréquentation. Il n'y a pas de file d'attente devant les centres de dépistage éphémères.
Et surtout des centres à moitié vides.
Centre du gymnase, voilà. Assis seul au milieu d'une vingtaine de chaises vides. Avec le sourire, ils admettent ne pas avoir croisé grand monde.
Ce que je constate, c'est que la population n'a pas l'air clairement convaincue.
Pas convaincue, mais attendez, peut-être que ça s'est mieux passé à Charleville-Mézières. Est-ce qu'on y a vu du monde ?
Alors non, très peu de monde ici, en tout cas dans le gymnase dans lequel nous nous trouvons, une trentaine de personnes, ces infirmières hein, qui sont en train de ranger le matériel. Honnêtement, elles ont été un peu désœuvrées puisque je vous le disais, très peu de monde ici pour cette première journée.
Des infirmières désœuvrées, bras ballants dans les laboratoires, un triste spectacle. Un peu moins de 3000 personnes au Havre le premier jour, c'est tellement faible qu'Édouard Philippe a revu ses ambitions à la baisse le soir même en conseil municipal.
Je veux dire, si on arrivait à 20-25%, ce serait déjà bien. Ce serait déjà pas mal du tout, parce que ça ferait entre 50 et 60 000 tests. C'est beaucoup, beaucoup déjà.
Ah, beaucoup trop. Jeudi soir, on était à 18 000 personnes testées. C'est environ 7% de la population à peine. Une chose est sûre, ce soir, Édouard Philippe n'est pas le plus heureux des hommes.
Alors, pas le plus heureux, et on peut pas dire qu'il soit soutenu par son copain Laurent Wauquiez.
Oui, Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes, qui a lancé en même temps sa propre campagne de dépistage massif. 2 millions de tests achetés. Alors, officiellement, pas question de concurrence. Ce serait indécent sur un sujet aussi grave que la pandémie. Mais que voulez-vous ? En interview, on se laisse aller. Difficile de résister à une petite vacherie.
Pour donner une échelle de comparaison, le Havre, ils ont déployé à peu près une vingtaine de centres temporaires. Nous, on parle de 1300 centres qui vont être déployés un peu partout dans la région pendant une semaine.
On est loin du débat politique, on a plutôt l'impression d'en être là.
Au galodrome de Prima, deux coqs livrent combat. Les gradins sont parsemés d'amateurs de bataille coq.
Et Laurent Wauquiez ne boude pas son plaisir, il enfonce le clou.
Mais au début, le ministre disait les tests massifs, ça sert à rien. Et puis ce week-end, il était au Havre en disant, finalement, ça a du sens.
Il a surtout dit que vous faisiez un effet d'annonce.
Oui, enfin... Nous, vraiment, j'essaye de mettre de côté les polémiques.
Oui, je vous en prie, mettons de côté les polémiques. En tout cas, on attend les chiffres du mass testing de Laurent Wauquiez à voir s'ils sont aussi ébouriffants que ceux de la ville du Havre.
Très très bien, ce premier loser. Ouais, Marie Mollet, parfait, 19h45 ou presque. On a un cadeau pour les auditeurs, Cyprien. Oui, c'est le moment que vous attendez tous pour découvrir la fabuleuse question dont défait le monde, évidemment, mais surtout pour tenter de gagner cadeau.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Oui, mais alors ce soir, Monsieur Cadeau est au repos. Mais Damien, vous qui êtes aux manettes, rassurez-moi, il a laissé quelque chose à gagner quand même.
Oui, on va essayer de le déranger un petit peu. Je pense qu'il n'est pas à côté, mais on va quand même essayer.
7224, 7225, 7200. Oui. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir la Dream Team. Pardonnez-moi, je suis parti hier soir à la rescousse du Père Noël. Je peux pas être avec vous ce soir, mais évidemment, je ne vous oublie pas. Et alors, attendez, je vais retrouver le cadeau que j'ai pour vous ce soir. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Wow, c'est pas ça non plus. Aïe ! Ah, le voilà, ça y est. Alors attention, à une semaine de Noël, on vous offre ce soir un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension à l'hôtel Belle Plagne, qui est situé du coup à la Plagne 2100. Belle Plagne, c'est l'une des 10 stations de ski du domaine Paradiski et elle constitue un des plus beaux villages d'altitude du domaine. C'est le groupe Vacances Bleues qui vous offre ce séjour cocooning à l'hôtel 3 étoiles Belle Plagne. Donc, il se situe au pied des pistes. Il y aura à l'intérieur de l'hôtel un bain à remous. Vous aurez une vue panoramique face au sommet. Cet hôtel est cosy et en plus ce soir, Intersport vous fournit le matériel de ski pour vous et la personne qui vous accompagnera.
Allez, dépêche-toi, Grégory.
Bon, écoutez, vous l'entendez, il faut que j'y retourne, le Père Noël m'appelle. Je vous laisse poser la question, Cyprien.
Merci, Greg, amuse-toi bien. Comment s'appelle le gars habillé en rouge qui offre des cadeaux le soir de Noël avec qui était Greg ? Est-ce que c'est A, le Père Noël ma mère ? Est-ce que c'est B, le Père Iphérique ? Ou est-ce que c'est C, le Père Noël tout court ? Vous avez la bonne réponse, vous connaissez, hein, 32-10 et vous allez à la Plagne. Appelez vite. 3-2-1-0, bonne chance à vous tous, il est 19h46.
RTL Soir, on défait le monde.
C'est l'heure du billet retour, le droit de suite bien sûr dont défait le monde quand on revient sur une info qui était à la une et qu'on a un peu oublié depuis.
Et ce soir, une révolution qui avait enflammé une partie du monde il y a tout juste 10 ans.
Mohamed Bouazizi, le jeune Tunisien qui en s'immolant allait déclencher sans le savoir le printemps arabe.
Le ou les printemps arabes, une vague de révolte sans précédent qui déferle sur une grande partie du monde arabe. Tunisie, Libye, Yémen, Syrie, Jordanie, Bahreïn est symbole très fort de ce mouvement international.
Une place noire de monde, la place Tahrir, la place de la libération au cœur du Caire. Occupé jour et nuit par des manifestants.
Des millions de manifestants place Tahrir en Égypte pendant 18 jours. Alors, tout ça, c'était il y a 10 ans, Brice. Il en reste quoi aujourd'hui ?
Alors, c'est évidemment bien différent d'un pays à l'autre, mais globalement, on peut quand même dire qu'il n'y a pas de reconstruction totalement réussie. La Tunisie, d'abord, qui fut la première à se soulever et pousser le dictateur Ben Ali au départ, a du mal à stabiliser ses institutions, a été frappée à plusieurs reprises par le terrorisme islamiste, et la situation économique ne s'y améliore pas. La Libye est en plein chaos, pleine guerre civile entre partisans de l'Est et de l'Ouest, avec les acteurs internationaux, la Turquie, la Russie. L'Égypte, après avoir mis Moubarak dehors, avait élu un président islamiste qui a lui-même été renversé par l'armée du maréchal Sissi. Maréchal Sissi qui est devenu président, élu à 97%, loin de la démocratie espérée. Et puis la Syrie, toujours morcelée et détruite. Le Yémen, où le dictateur avait été renversé, connaît une sanglante guerre civile depuis des années. Donc clairement, ce ne sont pas toujours des lendemains qui chantent.
Avec ce que vous venez de nous décrire, on a l'impression que c'est encore pire qu'avant, en fait.
Alors, c'est vrai que c'est très chaotique, mais d'abord, les printemps arabes ont quand même permis de renverser quatre dictateurs. Ben Ali en Tunisie, Kadhafi en Libye, Ali Abdallah Saleh au Yémen et Moubarak en Égypte. Et cela a eu des conséquences quand même sur la construction démocratique. Il y a eu des élections organisées en Tunisie, en Libye, c'est perfectible, mais ça existe. Et puis dans certains de ces pays, surtout, les libertés sont mieux respectées, comme le décrit Aude Annabelle Canès, elle est politologue et spécialiste de la Tunisie.
De fait, de nombreux sujets étaient impossibles à aborder dans la rue. Les gens pouvaient parler dans leur voiture, par exemple, ne parlaient pas chez eux, fermer les fenêtres. Tandis que maintenant, c'est effectivement beaucoup plus libre. Tout ce qui est lié à la liberté. Donc ça, c'est un acquis majeur, que tout le monde puisse se faire entendre sans passer par des conflits très très durs. Donc ça, c'est des dynamiques qu'il y a à l'heure actuelle qui n'existaient pas avant.
Il y a une hausse du nombre d'associations, une meilleure défense de droits des minorités, un foisonnement artistique qui n'existait pas non plus avant. Et puis, il y a l'esprit de cette révolution qui existe toujours dans le monde arabe. On l'a vu plus récemment avec le mouvement de 2009 en Algérie qui a quand même poussé dehors l'indéboulonnable Bouteflika. Au Soudan, le départ d'Omar el-Béchir après des décennies au pouvoir. Et puis les manifestations au Liban, en Irak. Donc, des années après, l'idée que les dirigeants, même les plus puissants, les plus durs, puissent être contestés, bien ça, c'est quelque chose qui existe toujours au sein des peuples arabes. Mais au-delà de ces bonnes nouvelles, évidemment, tout ne peut pas se reconstruire en 10 ans. Il faut s'inscrire dans un temps plus long.
Donc 10 ans après, c'est encore trop tôt, si on vous suit bien, pour faire le bilan.
Oui, et ben je vais vous répondre par une citation. Savez-vous qui a dit « Nous avons fini le roman de la Révolution, il faut désormais en commencer l'histoire
bah, ». Un leader de ces révolutions arabes ?
Eh ben, c'est Napoléon Bonaparte qui parle de la Révolution française en 1799, c'est-à-dire 10 ans après. Et après ça, en France, il y a eu quoi ? Il y a eu l'Empire, la Restauration, donc retour de la monarchie. Il y a eu la Seconde République, le Second Empire, avant la Troisième République, qui est celle qui marque un peu la stabilisation de notre modèle républicain. Mais la Troisième République, c'est en 1870, c'est-à-dire 81 ans après la prise de la Bastille. Alors on ne peut pas trop transposer, tout comparer, mais ce n'est qu'un exemple qui illustre peut-être qu'il est encore un peu tôt pour dire que les printemps arabes sont des échecs.
Brice du génie de billet, retour de ce soir. Il est 8h10 déjà. Dans un instant, des nouvelles du Vendée Globe. A tout de suite.
On défait le monde sur RTL.
Marche ou rêve dans On défait le monde à 19h53. On prend des nouvelles de notre skipper, Maxime Sorel.
C'est notre chouchou dans l'émission. Et on le suit depuis le début du Vendée Globe. Il réalise un rêve. Son premier tour du monde à la voile en solitaire, Laurent.
Oui, plus d'un mois de course déjà. Lors de notre dernier échange dans l'émission il y a 15 jours, Maxime avec VNB Mayenne se trouvait au sud du continent africain dans le groupe de tête. Et nous avons réussi à le joindre un peu plus tôt dans la journée. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir.
Vous avez connu. Très bien. Vous avez connu, alors, vous, quelques galères ces derniers jours.
Ouais, effectivement, j'ai eu des problèmes de voile qui m'ont obligé à monter en tête de mât à plusieurs reprises. Ça m'a valu quand même une petite note d'originalité parce que j'ai passé le Cap Lewin en tête de mât.
Ah ouais, c'est vrai que c'était étonnant.
En tête de mât, jusqu'on comprenne, c'est donc en haut, c'est à combien de mètres de haut ?
Alors le mât est culmine à 30 mètres et là c'était pas tout à fait en haut, c'était à environ 26 mètres.
Voilà, et là vous êtes accroché quand même si jamais une galère.
Ouais, bien sûr. Alors, on est accroché, on monte comme les gens qui travaillent dans des zones d'accès difficiles ou dans les arbres pour aller couper des branches sur corde tendue. Donc, on a vraiment du matériel d'escalade avec un casque, un baudrier, tout ça, quoi.
Et alors, pour situer, là, pour nos auditeurs, vous êtes dans les 50e rugissant, c'est ça?
Oui, effectivement. C'est vraiment très sud, hein. C'est proche de l'Antarctique. Il fait très, très froid. L'eau, elle est à 4,5 degrés, là. Et il fait 3,2 degrés. Et avec le vent qu'il y a, en ressenti, il fait moins 4.
Mais alors, moins 4 degrés, ça veut dire que vous passez la plupart du temps à l'intérieur. Vous sortez le moins possible. Comment vous, ça change l'organisation par rapport au début de la course?
Ouais, ça change énormément, effectivement. Là, j'ai deux portes à bord. Et les deux portes sont fermées pour essayer de garder l'habitacle le plus chauffé possible. Et puis, le rythme est un peu différent. On mange beaucoup plus. Il faut manger très gras pour compenser en fait la perte d'énergie simplement liée au froid. Et il y a un rythme qui est assez dur à prendre parce que tous les jours, j'avance d'une heure en fait tout le temps. Donc le soleil se lève une heure plus tôt et il se couche une heure plus tôt aussi. Donc c'est assez difficile de se rythmer vraiment à bord.
Maxime, dans moins d'une semaine, c'est le réveillon de Noël. Vous allez respecter la recommandation de 6 à table?
Oh, la bonne blague.
Bah ouais. On ne sera pas 11, c'est sûr.
Et là, vous êtes tout seul, donc vous avez un repas spécial pour Noël, d'ailleurs, je me demandais ou pas, parce que vous êtes parti avec la nourriture pour tout le trajet. Il y a un truc que vous êtes gardé en disant, ah, je me le fais pour Noël, genre un bolino spécial, ou je sais pas.
Alors, j'ai demandé à mon équipe de me faire un repas de Noël, donc je vais découvrir. J'ai un sac qui s'appelle la hotte du Père Noël.
Ah.
Et je vais l'ouvrir et normalement, alors je sais qu'il y a du foie gras dedans.
Est-ce que vous avez un navigateur à proximité pour fêter Noël? Je crois que ça s'est déjà fait sur d'autres Vendée Globe, hein, des navigateurs qui se rejoignaient pour au moins saluer le soir de Noël.
Ouais, effectivement, vous avez raison. Moi, je suis un peu trop loin de ceux qui sont derrière et ceux qui sont devant sont un peu plus loin aussi.
Vous êtes tout seul. Vous êtes abandonné.
C'est ça.
Et ben en tout cas, merci beaucoup Maxime Sorel sur VNB Mayenne. Hein. On continue à suivre
bon
votre
courage.
Périple. On se régale avec vous et bon courage pour la suite et puis continuez surtout. Hein.
Et ben ouais, joyeux Noël à tous et puis à très bientôt alors.
À très
bientôt.
Vite.
À
merci
bientôt.
Maxime.
Respect total. Hein,
ah, extraordinaire.
Bravo pour la question Bolino. Hein.
Ouais, bon, et puis le conseil de lui dire continuer, ça c'est bien aussi. Merci Cyprien.
C'est très très en forme.
Si peut-être qu'il voulait s'arrêter.
On va revenir sur toutes les questions.
Ouais,
il y a un gagnant ce soir. Pascal de Brive-la Gaillarde, bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir.
Ah, le Limousin, bravo.
Alors, Pascal, on répète la question rapidement. Comment s'appelle le gars qui descend pour apporter les cadeaux?
Compliqué, le Père Noël.
Bon, wow. Vous partez à la plage. Pour deux, une semaine. Vous adorez le ski, la montagne, tout ça?
C'est la première fois que j'y vais.
Ah, bah, génial.
Super.
Ah, ça, c'est
super.
Génial.
Alors, ça, c'est top.
Bien. Voilà. Profitez bien, on est très très heureux. Merci de votre fidélité, Pascal.
Dans
le Limousin, donc il fallait.
Absolument, dans le Limousin, pas loin de Limoges, si certains connaissent. Voilà, Brive-la-Gaillarde.
Merci à vous tous de nous avoir accompagnés comme tous les vendredis soirs. L'équipe ne sera pas là vendredi prochain puisque c'est Noël.
Tout à fait.
Mais on sera
le
1er janvier,
dans 15 jours, pour faire un espèce de bilan et projection.
Voilà, on prépare une émission avec tous les chefs de service d'RTL.
Premium.
L'actu arrive et le football ensuite. À tout de suite.